神経バテアン。
Tu rentres tôt, plus tôt qu'avant. Tu allumes ton ordi, tu attends. Ils sont tous là, derrière l'écran.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, Média Critique s'intéresse aux adolescents et au cyberharcèlement. Au sommaire de notre émission, un débat consacré au film de Michel Franco, Despois de Lucia, visionné et analysé par des élèves, des coudriers, qui a été le point de départ d'une réflexion comme sur le cyberharcèlement. Avec un vox pop de sortie de projection, un portrait du réalisateur et une revue de presse. Ensuite, une interview d'un enseignant du cycle des courriers. Un reportage, faut-il interdire les écrans aux adolescents? Et enfin, un éclairage sur les actions menées par le DIP et par des artistes engagés en matière de prévention, victimes ou témoins de cyberharcèlement, comment agir? Mais tout de suite, le micro-trottoir de la semaine réalisé par notre reporter Jonathan dans le préau des Coudriers.
Bonjour, pensez-vous que les écrans et les réseaux sociaux augmentent le cas d'harcèlement à l'école?
Parce qu'on a tout le temps à la maison les téléphones sur nous, donc on est beaucoup plus joignable.
C'est un contact plus facile aussi.
Ouais, c'est plus rapide d'avoir les informations dont on a besoin.
Pensez-vous que les écrans et les réseaux sociaux augmentent le cas d'harcèlement à l'école?
Oui, je pense qu'ils augmentent les cas d'harcèlement parce que...
On est plus joignable.
Voilà, exactement. À l'école, on peut se faire harceler physiquement, mais l'harcèlement, il peut continuer
moralement,
par le portal.
Voilà.
Notre génération, elle a beaucoup d'utilisation avec les appareils électroniques, du coup les téléphones. Du coup, je pense que oui, que ça a induit à ce qu'on ait plus d'harcèlement à l'école.
Merci. Bonjour. Pensez-vous que les écrans et les réseaux sociaux augmentent le cas d'harcèlement à l'école?
Oui. Ouais, ça augmente. Parce que il y a des gens qui sont bêtes.
Bonjour. Pensez-vous que les écrans et les réseaux sociaux augmentent le cas d'harcèlement à l'école?
Oui, beaucoup, parce que sur Facebook, il y a des gens qui deviennent amis avec des gens, mais qui connaissent pas en fait. Qui sont vraiment en fait, parce que ça peut être parce que il y a des images d'enfants et tout, mais alors que ils peuvent être des adultes de 45 ans ou 55 ans. Du coup, bah, il y a beaucoup de cyberharcèlement en fait.
Ok, merci.
Du harcèlement au cyberharcèlement. Il n'est pas toujours facile pour les élèves que nous venons d'entendre de savoir comment agir. Pourtant, un grand nombre de services et d'actions existent pour nous aider et nous informer à ce sujet. Avec nous, pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Walid et Apinash. Bonjour à vous deux. Commençons, si vous voulez bien, par le DIP. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par le département de l'instruction publique, pour prévenir et aider les élèves qui sont victimes ou témoins de l'harcèlement?
Cela fait à peine 2 ans que le DIP a choisi de s'intéresser à la question, puisqu'il aura fallu attendre 2016 pour voir enfin un plan d'action et de prévention lancé contre le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement entre élèves est la forme de violence scolaire la plus répandue, pourtant c'est le moins visible. Le DIP lance un plan d'action et de prévention pour agir précocement. C'est un enjeu éducatif majeur qui participe également de la lutte contre le décrochage scolaire. Selon une enquête menée à Genève, 6% des élèves ont subi le cyberharcèlement.
Merci Apinash. Et depuis 2016, du nouveau au DIP, Walid?
Depuis l'affaire Weinstein survenue en octobre 2017, où de nombreuses actrices de cinéma ont choisi de dénoncer le harcèlement sexuel dont elles ont été victimes de la part de son producteur hollywoodien, jusqu'à l'appel à dénoncer les harceleurs via Twitter sous le hashtag Balance ton peur, en passant par les récentes accusations qui frappent certains enseignants coupables d'harcèlement sexuel envers des élèves. C'est en janvier 2018 que Mme Anne-Emery Torrancinto, la magistrate en charge du DIP, choisit de réagir. Elle écrit la feuille Abus écoute qui parle d'harcèlement ou d'abus sexuel des profs envers les élèves. Elle incite les élèves qui sont victimes d'harcèlement d'en parler. Pour certains élèves, c'est difficile d'en parler. Donc, elle a annoncé l'ouverture d'un numéro gratuit pour que les élèves victimes d'harcèlement puissent en parler. Le numéro est le 0800 800 922. Les élèves pourront parler avec des professionnels qui pourront les aider et cela reste confidentiel. Elle a fait cela car elle sait que c'est très difficile pour les victimes et elle veut les aider. Donc je rappelle le numéro qui est le 0800 800 922.
Merci beaucoup à Pinache et Wally.
Regarde-moi, j'ai encore plus mal que toi.
Yeah, funny babe, yeah, et on les croise à l'appel. Les voyous virtuels, les petits ont 13 piges, veulent déjà être sensuels. Les murs n'ont plus d'oreilles, ils ont Bluetooth à DSL. Et on joue au jeu de celui qui sera le plus cruel. Les commentaires appellent au secours, parfois les mots sont des larmes. Les claviers s'attirent, les ordis sont des armes. Maman, je reste dans ma chambre, maman, j'ai pas trop faim. Maman, j'ai fait souffrir, mais c'est court comme un refrain. Rencontre sur le net, tu sais même plus qui tu vois. Privés sont les messages, plus besoin de se casser la voix. Je t'aime par SMS et tu me manques par email. Tu m'as kiffé sur Twitter et t'as rompu par BBM. Moi, quand j'étais petit, on n'avait pas d'ordinateur. On restait jouer au foot et on parlait pendant des heures. Toi t'es seul devant l'écran et même les jours de fête. Dis-moi avec qui tu surfes, je te dirai qui tu prêtes.
Pourquoi? Demande-leur. Ils ne savent pas. Ils croient jouer comme les grands. À d'autres guerres, à d'autres jeux d'enfants. Lève la tête. Je t'entends. Change le sens du vent. La haine se glisse dans les bagages. À l'âge des livres d'images.
Comment relever la tête de mon clavier?
Sèche tes larmes, regarde-moi.
T'as qu'à ouvrir un coup si tu veux pas.
Et nous passons maintenant à notre reportage avec une question qui fait débat un peu partout. Faut-il interdire les écrans aux adolescents? Et je passe tout de suite la parole à Raphaëlla qui va nous parler de ses patrons d'Apple, Google et Twitter qui connaissent mieux quiconque les dangers de leur propre invention.
Bonjour à toutes et à tous. En effet, cher Saïtri, on va s'intéresser à ces patrons de la Silicon Valley qui interdisent la high-tech à leurs enfants. Savez-vous que ceux-là même qui pensent et fatiguent nos smartphones, iPad, Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux interdisent leur invention à leurs propres enfants? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils en connaissent les dangers. Pour les protéger, ils leur interdisent les Natel, ils leur offrent plus volontiers de bons vieux livres pour outils de savoir et d'apprentissage. Seule exception, ils autorisent parfois les tablettes ou ordinateurs uniquement pour des activités créatives comme par exemple la programmation ou le montage vidéo. Par ailleurs, savez-vous où sont scolarisés leurs enfants? Eh bien, dans des écoles anti-technologie, les classes travaillent là encore avec le bon vieux tableau noir et la craie, et les premiers contacts avec l'ordinateur ne se font pas avant la quatrième année. Et oui, que ce soit Steve Jobs, Evan Williams ou Shyamal Palihapitiya, ces patrons de Google, Apple, Twitter, Facebook et autres en sont convaincus. La high-tech nuit à la santé, à la concentration et à la créativité des enfants. Cela devrait donner matière à réflexion dans le cadre de l'école numérique. Voilà, c'était tout pour ces patrons de la Silicon Valley qui interdisent la high-tech à leurs enfants.
Merci Raphaëlla. Pas de réseaux sociaux, ni d'écran, ni de Natel, donc pour les enfants des dirigeants de Twitter, Apple, Yahoo ou Google, qui choisissent même de scolariser leurs enfants dans des écoles anti-high-tech. Et dans les écoles publiques, que se passe-t-il? Comment protéger les élèves? De grands changements sont prévus en France pour la prochaine rentrée scolaire. Avec nous, pour en savoir plus, j'ai le plaisir d'accueillir Sohan et Samira. Bonjour à toutes les deux. Alors, Sohan, est-il vrai que le gouvernement français envisage d'interdire les Natel à l'école?
Bonjour. Alors oui, effectivement, selon le journal quotidien français Libération, dans un article paru en décembre 2017... Jean-Michel Blanquer a confirmé cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le téléphone portable sera donc officiellement interdit pour les élèves dans l'ensemble des écoles et des collèges à la rentrée 2018. Mais ils ont aussi évoqué en septembre de faire des casiers qui se ferment, puisque parfois ils en auront besoin pour des usages pédagogiques ou même pour des situations d'urgence, Alors, ils sont un peu perplexes là-dessus. Il y a déjà un bâtiment du portable dans certains établissements. Et même, on dit qu'il est très bon que les enfants ne soient pas trop devant les écrans avant l'âge de leurs 7 ans.
Merci Sohan. Après l'Inatel, le gouvernement français ne s'arrête pas là et souhaite aussi s'attaquer aux réseaux sociaux, tels Facebook, Snapchat ou Instagram, qui, nous le savons, favorisent énormément les cas de harcèlement entre adolescents. Qu'est-il prévu exactement, Samira ?
Eh oui, Saïtri, selon un article publié le 14 décembre dernier dans le magazine hebdomadaire français Les Inrecuptibles, qui dit que les ados de moins de 16 ans seront mieux protégés car il faudra l'autorisation des titulaires légaux pour pouvoir s'inscrire sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Snapchat ou Instagram. Pour être sûr que cette règle sera respectée, il est prévu des sanctions pouvant monter jusqu'à 20 millions d'euros. Cette décision a été prise lorsque plusieurs membres de Facebook ont témoigné contre à ce sujet-là.
Merci beaucoup Samira, mais laissons maintenant la parole à Denita qui est allée faire un témoignage avec Monsieur Jossi, enseignant de géographie.
Interview.
Bonjour Monsieur Jossi.
Bonjour Denita.
Alors, dans le cadre de notre cours de mythique, nous avons regardé un film d'Esposé Lucia qui parle du cyberharcèlement et nous aimerions vous poser quelques questions. Que pensez-vous en général du cyberharcèlement ?
Alors, le cyberharcèlement, c'est un problème qui est devenu très important pour les jeunes aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés, en fait, beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc, c'est quelque chose dont il faut se préoccuper, effectivement.
Et avez-vous déjà rencontré un cas de cyberharcèlement au sein de votre classe ?
Oui, plusieurs fois.
Et qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, c'est ce que je dis toujours au début d'année à mes élèves. Quand on est confronté à un cas de cyberharcèlement, il faut tout de suite, dès le début, en parler à un adulte autour de soi. Ça peut être le parent, ça peut être le maître principal, ça peut être un enseignant avec qui on s'entend bien, mais il faut en parler avec un adulte pour que justement on puisse mettre en place des solutions pour que ça cesse tout de suite. Parce que le problème avec le cyberharcèlement, c'est que ça peut prendre vite des proportions très importantes.
Et quelles conséquences peut entraîner selon vous sur l'élève concerné par rapport à la classe ?
Alors, le plus courant, c'est les baisses dans les résultats scolaires. Après, ça peut aller très loin parfois, avec des tentatives de suicide ou vraiment un mal-être très profond.
Et merci. Et auriez-vous un message à faire passer à propos du cyberharcèlement aux élèves, aux parents ou aux enseignants ?
La même chose que je fais pour les parents des élèves de ma classe et pour mes élèves, c'est que les parents doivent être très attentifs à leur enfant. Donc quand ils voient qu'il y a un gros changement de comportement, il faut s'en inquiéter. Et puis pour les élèves, c'est la même chose que j'ai dit avant, il faut vraiment tout de suite consulter un adulte, en parler à un adulte, parce que tout seul, c'est impossible de s'en sortir.
Ok, alors merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et bonne journée.
De rien, Denita, bonne journée.
Un grand merci à Monsieur Jossi des Caudriers pour avoir pris le temps de répondre aux questions de nos reporters. J'ai donc maintenant le plaisir d'ouvrir le débat en compagnie de notre équipe de journalistes critiques et documentalistes des Caudriers, invités à réagir au film d'Espouette des Lucia de Michel Franco. Mais pour commencer, écoutons d'abord les réactions à chaud des spectateurs avec un vox pop de sortie de projection signé Newman.
Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve sur la radio Cité 21. Je me dirige donc vers la salle vers la sortie de salle de projection du film d'Espèce de Lucia. Et aujourd'hui, je vais poser des questions à 5 élèves. Alors, on commence avec Aris. Bonjour Aris.
Bonjour.
D'après vous, quelle est la morale de l'histoire ?
Alors, si on est victime d'harcèlement sexuel, il faut oser en parler car ça peut devenir vite un gros problème. Il faut oser en parler pour que le problème soit résolu et que cela ne se reproduise plus.
D'accord, merci beaucoup. Bonjour Sangoa.
Bonjour.
D'après vous, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette histoire ?
Dans cette histoire, il n'y a pas grand-chose de positif, mis à part que le père veuille se venger à la fin du film.
D'accord, merci beaucoup. Bonjour Alessandro.
Bonjour.
Qu'en pensez-vous du réalisateur ?
Alors j'ai trouvé ce réalisateur très particulier et très bien puisqu'il n'a pas essayé de faire des plans rapides mais des plans simples, ce qui rend le film complexe et captivant.
D'accord, merci. Bonjour Nicolas. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a de négatif dans cette histoire ?
Pour moi, c'est assez négatif, car je pense que des enfants à partir de 12 ans ne devraient pas voir ce film, car il y a des scènes choquantes où les ados fument, boivent, etc.
D'accord, merci beaucoup. Bonjour Kylian.
Bonjour.
D'après vous, quelle est la morale de cette histoire ?
C'est pas une question très facile, mais je pense que la morale de cette histoire est qu'il faut pas faire justice soi-même.
D'accord, merci beaucoup.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le plateau pour parler du film Despuèche de Lucia, un film qui a eu un prix au Festival de Cannes. Ce film dramatique de Michel Franco met en scène Alejandra, une jeune adolescente de 14 ans, qui se retrouve contrainte de quitter son lieu natal pour aller s'installer avec son père à l'autre bout du Mexique. Nouvel endroit, nouvelle école, nouveaux amis, et un changement brutal, rempli de violence et d'harcèlement dont elle est la victime. Incapable d'en parler à son père ou ses enseignants, on la suit dans sa descente aux enfers et on ne peut que souffrir avec elle d'une telle situation. Aujourd'hui, sur le plateau, avec nous, pour en parler, nous avons la joie d'accueillir nos différents invités qui ont eu la bonne volonté de nous faire part de leurs expériences dans le domaine et de leur point de vue. Veuillez donc accueillir Madame Bézic, une de nos trois journalistes critiques, Madame Manco et Solberger, nos deux autres expertes en cinéma. Nous avons également parmi nous Monsieur Do, notre journaliste documentaliste, qui nous fera le portrait du réalisateur du film, ainsi que Monsieur Bisognanou, en charge de la revue de presse. Pour commencer, je passe donc la parole à Monsieur Do, afin d'en savoir plus sur le fameux réalisateur Michel Franco.
Bonjour à tous. Déjà pour commencer, Michel Franco est né à Mexico en 1978. Actuellement, il a 38 ans et est mexicain. Son métier, c'est réalisateur et scénariste. Son signe astrologique, c'est la Vierge. Depuis son enfance, il est passionné d'art. Et il commence par des pubs, des petites pubs et des courts-métrages au début de sa carrière. En 2003, il sort le film Entre Doux, qui a le prix du meilleur court-métrage au festival de Dredd. Mais plus tard, il est surtout connu grâce à ses longs-métrages et il a beaucoup de succès. En 2009, il reçoit la Caméra d'Or avec le film Daniel Yana. Avec Despuèche de Lucia, il s'ouvre définitivement les portes du Festival de Cannes en 2012. En 2013, il a aussi le prix d'un certain regard avec Los Anchos. En 2015, il reçoit la Palme d'Or plus le meilleur scénario avec le film Chronique. Et en 2007, c'est une très très grande année pour lui car il reçoit le prix d'un certain regard avec Les Filles d'Avril et puis le jury de la Mostra de Venise.
Merci beaucoup. On va parler un peu du film. Qu'en pensez-vous, Madame Bézic ?
Alors, bonjour et merci de m'avoir accueillie. Alors, pour moi, ce film il mêle vraiment deux sensations bien distinctes. Tout d'abord, il y a une sorte de tension qui persiste vraiment tout au long du film et qui nous pousse, nous, en tant que spectateurs, à vouloir agir et juste remettre l'adolescente sur le droit chemin. Parce qu'on sent qu'elle est vraiment pas bien, parce que d'un autre côté, on a cette gêne qui persiste aussi, où on la voit avec son père, avec des moments de tendresse, et ce quotidien désastreux où l'adolescente, elle se mure avec son silence. Et je trouve que ça fait juste un gros, gros contraste. Et le message, il est très fort et il est vite compris tellement il est flagrant. Il faut oser en parler, sans quoi on en subit largement les conséquences. Alors franchement, je terminerai juste avec un mot pour Michel Franco qui a fait un excellent travail. Moi, je trouve que ça a été juste bouleversant et que c'est un film qui devrait être vu par pas mal de personnes.
Merci beaucoup. Madame Manco, qu'en pensez-vous ?
Alors bonjour, moi je pense de ce film, je pense qu'il n'est pas très adapté pour certaines personnes parce que les images sont inappropriées et que c'est pas marqué l'âge légal, enfin l'âge légal c'est 14 ans, mais pour les personnes qui visionnent ce film. Et je trouve que cela va trop loin dans les détails. Et les enfants moins de 14 ans pourront être choqués de ces images.
Et donc, vous n'avez pas aimé le film ?
Non, je viens de le dire, je ne l'aime. Enfin, je n'aime pas ce film.
Et vous, Madame Selberger ?
Je suis très mitigée sur mon avis à propos du film. Alors, tout d'abord, je trouve que ce film a évidemment un côté assez positif parce qu'il nous montre réellement le comportement de l'entourage de la victime, leurs actions et comment ils réagissent. Effectivement, il nous fait voir la vérité, le fait que les victimes n'osent pas en parler de peur d'aggraver la situation. Ce film peut évidemment encourager les victimes à en parler, ils permettent de se remettre en question, mais je suis totalement avec Madame Manco sur la limite d'âge.
Merci beaucoup. Monsieur Bisognano.
Bonjour. Ce qui est arrivé à cette jeune fille touche beaucoup de filles de son âge. Dans ce film, Alejandra se fait violer. Le seul problème, c'est qu'elle n'en a jamais parlé. Du coup, ça pouvait que empirer. Du coup, ceux qui ont lui fait du mal ont continué. Ce film veut expliquer qu'en faisant rien, ça ne va pas s'améliorer. Michel Franco a voulu montrer ce qui se passe quand elle ne veut pas en parler, que ça ne va rien changer et que rien ne va s'arranger. Ce qui est bien, c'est qu'il montre que si elle n'en parle pas, ça ne va pas s'améliorer. Par contre, ce qui n'est pas bien, c'est que dans ce film, on ne peut pas savoir ce qui va se passer si elle en parle pour montrer qu'en parlant, ça va s'améliorer.
D'accord. Les spectateurs, avez-vous des questions ?
Oui, alors Madame Manco, je comprends votre point de vue. Il est clair qu'on ne va pas aborder ce sujet de la même manière avec un enfant qu'un adolescent. En effet, dans ce film, il y a des scènes choquantes. Mais certains parents, du coup, préfèrent ne pas montrer ce genre de film à leurs enfants. Cela dit, n'est-il pas préférable de leur montrer un film comme Despois de Lucia, malgré quelques scènes choquantes, pour que ça ne se reproduise pas, enfin, en faire la prévention, afin qu'ils ne soient pas coupables ou victimes d'harcèlement ?
Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut expliquer les choses, certes, mais sans entrer dans les détails. D'autres questions ?
Oui, moi, je suis totalement d'accord avec Madame Eschelberg. Et est-ce que les réseaux sociaux ont contribué à accentuer les cas de harcèlement ?
Oui, alors en effet, je pense que les réseaux sociaux ont augmenté les possibilités de se faire harceler parce que des photos compromettantes peuvent être diffusées sans l'accord évidemment de la personne harcelée. La possibilité de mettre des commentaires sous les photos postées sont également source de conflits. Tout ceci peut aggraver ou créer du harcèlement.
Ainsi s'achève notre émission Média Critique, en espérant que vous avez passé un agréable moment entre nous, compagnie sur Radio Cité 21. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont permis la réalisation de cette émission. Nicolas, Neila, Valentin, Yasmine, Nouman, David, Rafaela, Alessandro, Johan, Sohan, Nerea, Samira, Rodrigo, Donita, Léa, Aris, Sangwa, Walid, Apinache, Kylian, Jonathan et Julie. Et les classes 10-36, 922 et 10-37 pour leur collaboration musicale avec leur enseignant Andreas. Je vous souhaite une belle fin de journée sur Radio Cité 21 et vous dis donc à très bientôt sur nos ondes.
Média Critique, une émission présentée par Saïtri à la technique Nicolas. Bonne fin de journée.
Radio Cité 21.